La philosophie traditionnelle s'occupe communément de l'homme qui pense, comme si l'homme trouvait toute sa substance, tout son être dans la pensée. Tout a sa fonction dominante de concentrer les lumières sur ce sommet de l'être qu'est la pensée. La philosophie oublie souvent qu'avant la pensée, il y a le songe, qu'avant les idées claires et stables, il y a les images qui brillent et qui passent. Pris dans son intégralité, l'homme est un être qui non seulement pense, mais qui d'abord imagine, un être qui, éveillé, est assailli par un monde d'images précises et qui, endormi, rêve dans une pénombre où se meuvent des formes inachevées, des femmes qui se déplacent sans loi, des formes qui se déforment sans fin.
Aller jusqu'au bout de nos rêves à la manière du philosophe Gaston Bachelard. On y songe et on va s'y essayer aujourd'hui avec notre invité, le sociologue Bernard Lahire, professeur à l'ENS de Lyon, auteur de plusieurs ouvrages qui ont marqué la sociologie, dont Les plis singuliers du social. Et ceci n'est pas qu'un tableau à la découverte. Des questions scolaires aux pratiques culturelles des Français, il s'empare aujourd'hui de la question des rêves, chasse gardée de la psychanalyse, boudée par les sciences sociales. Les rêves peuvent pourtant éclairer notre rapport à l'autre, être reliés aux expériences que chacun vit dans le monde social. Dans son nouvel ouvrage « L'interprétation sociologique des rêves, toujours à la découverte », Bernard Lahire montre comment cette pensée ensommeillée travaille inconsciemment notre personnalité et conditionne nos comportements en développant une sorte de théorie de l'expression onirique. Ça fait rêver et c'est pourquoi nous l'avons invité, Bernard Lahire. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. « L'interprétation sociologique des rêves », une enquête onirique, pourrait-on dire, pensée en deux volets, ici la méthode et puis à suivre des exemples, on dira, un peu plus pratiques. En quoi le rêve est-il aussi un objet d'étude pour la sociologie? Et pour répondre à cette question, vous entrez en conversation avec Freud en insistant sur la scientificité de sa démarche, en revisitant aussi son cadre méthodologique. On pourrait peut-être commencer avec vous par une définition du rêve, par ses contraires ou par ce qu'est le rêve pour vous, sociologue Bernard Lahire.
On pourrait dire, d'ailleurs pour rebondir sur ce qu'a dit Bachelard tout à l'heure, que au fond, le rêve c'est une forme, c'est une modulation de la pensée pendant le temps du sommeil. Bon, alors lui, il oppose la pensée à l'imagination. Je pense que nous sommes dans l'imagination permanente. Bachelard oubliait par exemple qu'il y a la rêverie éveillée, qui est un intermédiaire. Nous passons notre temps avec des rêveries éveillées, que nous soyons dans notre voiture, dans les transports en commun, dès que nous avons un moment, il y a des images qui défilent. Ça ne s'arrête jamais. Et ça ne s'arrête pas pendant le temps du sommeil. Donc, voilà. C'est quelque chose à la fois de mystérieux, parce que c'est, on sait très bien que quand on se lève et qu'on se rappelle de son rêve, on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On comprend pas, et donc ça met un peu en difficulté, je dirais, la représentation de l'homme rationnel, conscient, etc. Si on est capable de produire des choses très bizarres qu'on ne comprend pas soi-même, c'est que ça remet en cause l'idée qu'on maîtrise notre pensée, par exemple.
Alors le rêve, ce qu'il n'est pas, un flux aléatoire et incohérent d'images, de sons et de sensations dont la production ne dépendrait d'aucun cadre régulateur ni d'aucune logique organisatrice. Voilà ce que vous écrivez, Bernard Lahire. D'où votre choix de le penser plus généralement comme une forme d'expression spécifique située dans un continuum expressif. Autrement dit, Bernard Lahire, le rêve, cette activité psychique plus ou moins volontaire, qu'est-ce qui se passe pendant qu'on rêve? Qu'est-ce qui travaille en nous, pour vous, durant le sommeil ou ces rêves éveillés?
Alors, il se passe beaucoup de choses pendant le rêve, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a à la fois le passé et le présent qui sont en jeu dans le rêve. C'est, je dirais, presque la rencontre d'un présent ou d'un passé très récent. Et ça, Freud l'avait très bien dit. Il avait repéré des éléments de situations, de circonstances très récentes vécues par le rêveur ou la rêveuse, généralement la veille du rêve. Il y a des images précises qui viennent de là, un livre vu, une pièce de théâtre vue, etc., bon, qui rentrent dans le rêve. Et en même temps, il n'y a pas que ça. Et souvent, il y a des mélanges de pans du passé et de pans du présent. Donc, si on pense dans une dynamique, en fait, la fabrication du rêve, on se rend compte que le présent, en permanence, que ce soit dans le rêve ou tout au long de notre journée, le présent rouvre en permanence des éléments de notre expérience passée. En permanence, nous sommes sollicités par des éléments présents qui viennent réveiller des expériences relativement analogues qu'on a vécues dans le passé. D'où ces étranges mélanges à l'intérieur du récit de rêve. On a des personnes qui ne se connaissent pas, qui sont dans le même rêve. On a des gens qui se transforment en une autre personne. Vous avez des rêveurs qui vous disent « c'est mon père, mais c'est un peu moi aussi ». Bon, voilà, je sais pas comment, mais c'est comme ça. Ou bien quelqu'un qui était là à côté de moi, c'est bien mon frère, mais après ça devient mon père. Mais je sais que c'est la même personne. Bon, donc il y a des métamorphoses, il y a des condensations, tout ça, Freud l'avait perçu.
Vous dites que c'est un espace de rencontre et c'est une nouvelle temporalité qui se développe aussi à l'intérieur du rêve. On a quand même juste une question avec ces exemples que vous venez de nous donner, qu'on a envie de vous poser, c'est comment le sociologue va enquêter sur le rêve. Vous êtes allé à la rencontre de rêveurs, vous les avez écouté exprimer leurs rêves.
Oui. Alors ça c'est aussi une des choses qu'on peut quand même critiquer chez Freud, c'est le côté un petit peu léger du point de vue méthodologique. Je pense que la science ne se permet plus des choses aussi aléatoires et mal ficelées que ce qu'a pu faire Freud, qui voyait quand même beaucoup de gens dans la journée, lui-même s'en plaignait, parce que c'était très fatigant, c'est très fatigant d'écouter des rêveurs. Il en voyait parfois 10 par jour, il ne notait rien, il n'avait pas les instruments que nous avons aujourd'hui d'enregistrement. Ça fait beaucoup. Et puis parfois, il travaillait sur des rêves qui étaient des souvenirs de rêves d'il y a plusieurs années, etc. Bon, je pense qu'il faut faire très attention à tous ces aspects méthodologiques-là qui ont un peu décrédibilisé une partie de la pratique psychanalytique, alors que par ailleurs, c'est une vraie pratique scientifique de départ. Hein, c'est une science. Il parlait de science des rêves quand même. Il avait une grande ambition scientifique, mais là, il faut être très sérieux. Il faut demander à des gens, dans des conditions très particulières, de prendre en note leurs rêves ou de raconter leurs rêves s'ils veulent pas l'écrire, de l'enregistrer dès le réveil pour avoir des traces. Les plus proches possibles du moment du rêve en lui-même. Puisque le rêve, on n'a pas accès directement. Il y a des images pendant la nuit et...
Bernard Laye, quand vous touchez à la psychanalyse, vous savez qu'Antoine Mercier va se dresser comme un seul homme.
Justement, parce qu'effectivement, il me semble que c'est un des points importants du livre. C'est le moment où vous vous dissociez précisément de Freud sur un point très important, puisque vous nous avez dit qu'effectivement, que le présent du rêve permet de ramener du passé. Pour Freud, il y a la notion de refoulement, il y a la notion de choses qui ne seraient pas, qui seraient contrôlées, alors que précisément vous nous dites non, le rêve est l'occasion de découvrir des choses où il n'y a plus d'interdit qui se manifeste et où on peut voir les choses réellement pour ce qui se passe dans la tête d'une personne, d'où l'intérêt sociologique renforcé sans doute.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est un vrai problème, parce que Freud dit à la fois il y a un affaiblissement de la censure dans le rêve, et en même temps, il explique toutes les bizarreries du rêve par la censure. Donc on se dit, il y a censure ou il n'y a pas censure. Donc là, déjà, il y a un flottement chez lui, hein, il faut le reconnaître, mais un flottement qui est intéressant, parce que il voit bien que ça dit des choses parfois horribles. Et d'ailleurs, il veut pas trop travailler sur des rêves érotiques ou pornographiques, mais de temps en temps, il a un rêve, par exemple, qu'il appelle le rêve de l'escalier, et en fait, c'est quand même un homme qui frotte son sexe en érection sur la jambe d'une jeune fille. On peut pas dire que ce soit très censuré comme rêve. Donc, s'il avait accepté de travailler un peu plus sur les rêves érotiques ou quasiment pornographiques que pouvaient lui proposer ses patients ou ses patientes, il aurait peut-être révisé, comme il a su réviser sur d'autres points, la question de la censure. Donc, moi, ce que je dis, c'est que si on prend les conditions de production du rêve comme une situation de communication comme une autre, on se rend compte qu'il y a un continuum. Que vous ne parlez pas à votre supérieur comme à un proche, que vous ne parlez pas, que vous ne parlez pas à un ami vraiment très très proche, comme vous parleriez à quelqu'un qui peut vous juger, vous sanctionner, etc. Que vous avez le journal intime qui vous permet de dire des choses les plus horribles sur votre famille, etc. Mais que malgré ça, vous avez peur qu'on tombe sur votre journal intime. Et quand vous faites des rêveries éveillées, vous savez très bien que vous pouvez tuer des gens. Il n'y a personne qui peut vous le reprocher. Vous pouvez faire des rêves érotiques. Vous pouvez être complètement désinhibé, etc. Personne ne le voit. Alors vous imaginez la nuit. C'est-à-dire que la nuit, il n'y a plus de public. Il n'y a plus d'auditeurs. Il n'y a plus personne qui écoute, à part soi-même.
Donc si on projette nos rêves dans le social ou dans l'espace social, on se rendrait compte qu'il y a beaucoup matière à censurer ou à condamner, ou en tout cas pour nous-mêmes aussi, matière à se sentir coupable. Qu'est-ce que le rêve va dire de nous, pour vous, Bernard Lahire? Qu'est-ce qu'il va dire des sociétés dans lesquelles on vit? Comment vous l'avez analysé dans ce sens-là?
Eh bien, en fait, si on considère que le rêve est un moment où les personnes, en fait, font travailler un certain nombre de problèmes, parce que c'est ça qui apparaît. Et là, tous les travaux qui ont été menés depuis Freud font apparaître au moins ça. C'est qu'il y a quelque chose comme des problèmes qui travaillent, des préoccupations, des soucis. C'est des choses qui sont cruciales pour comprendre ce que sont les rêves. Les rêves ne traitent pas de tout. On ne peut pas faire une sociologie globale des individus uniquement avec les rêves. Par contre, on a ce qui les préoccupe, ce qui leur fait souci. Et là, c'est intéressant, parce que c'est une sociologie, on a déjà fait de la sociologie de la souffrance, par exemple, mais une sociologie des soucis, des préoccupations des gens, qui touchent à des choses vraiment prosaïques. Ils ont des relations tendues avec des collègues, avec leurs conjoints.
Est-ce qu'on a besoin des rêves pour ça, finalement? J'allais vous poser la question.
C'est voir ce qui travaille une époque, que vous dites quelque part aussi.
Oui, mais alors, il y a deux choses. C'est d'une part, le but, c'est d'arriver à comprendre, est-ce qu'un sociologue peut dire quelque chose sur le rêve? Oui, j'essaye de montrer que c'est des problèmes sociaux qui rentrent dans les rêves. On rêve de domination sociale, de désir d'ascension, on rêve de domination masculine. Les femmes rêvent plus d'être agressées par des hommes que les hommes, qui rêvent qu'ils agressent beaucoup plus souvent.
Enfin, on en rêve, mais pas, ça ne veut pas pour autant dire qu'on en rêve, si?
Alors, on en rêve.
On en rêve, mais ça ne veut pas dire qu'on l'idéalise pour autant.
Ah non, non, non.
D'accord. C'est toujours bon de préciser par les temps qui courent.
Alors, c'est un vrai problème, parce que le terme de rêve a deux sens. Soit on dit « je rêve d'aller faire le tour du monde », ce qui n'a absolument pas le même sens que dire « je rêve la nuit ».
Ça peut se transformer en cauchemar.
Et la nuit, c'est souvent des problèmes. Ce n'est pas du tout des choses rêvées dont on rêve la nuit.
Ça va mieux en le disant.
Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, donc tous ces problèmes-là sont travaillés, et donc déjà, c'est intéressant parce que ça montre que le monde social, il est là la nuit et qu'on voit les effets de concurrence professionnelle, scolaire, les agressions, les tensions qu'il y a dans les relations entre les gens sont là, souvent transposées, complètement transfigurées. Et c'est comme la littérature. On ne peut pas dire la littérature, c'est juste un décalque du monde social ou une sorte d'autobiographie directe. Les gens parleraient d'eux-mêmes dans la littérature. Oui, ils parlent d'eux-mêmes, d'une certaine façon, ils ne font que ça, mais sous une façon transfigurée. Et le rêve, c'est pareil.
Qu'est-ce que ça apporte? Je repose un peu ma question. Oui. Finalement, bon, d'accord, il y a des problèmes sociaux qui rentrent dans les rêves, il y a aussi des problèmes sociaux qui sont hors des rêves. Est-ce que ce qui précisément vient dans le rêve apporte quelque chose dans l'interprétation des phénomènes sociaux, de la sociologie en général? Quel genre de choses?
Alors, d'abord, je pense, et alors là, c'est pas indifférent avec Freud, au contraire, que l'inconscient est sous-estimé par les sociologues ou les chercheurs en sciences sociales en général. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on travaille sur des gens à l'état éveillé et on se rend. Il y a quand même des définitions de l'acteur qui sont souvent qui mettent l'accent sur l'aspect conscient, rationnel, etc. Ce que montrent à la fois les rêves, mais aussi tous les travaux des neurosciences, c'est qu'il y a un inconscient permanent. Nous sommes toujours en train de calculer des tonnes de trucs. Quand vous êtes dans ce studio, vous voyez les lumières, vous interprétez les formes, etc. Vous le savez pas. Il y a tout un travail qui est permanent. Et c'est aussi un travail en termes de perception sociale. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que on a un calculateur permanent ou un travail. Enfin, c'est une petite machine à analogie. en fait. C'est ça que j'essaye de dire dans l'ouvrage, c'est-à-dire que on est toujours en train de faire des rapprochements analogiques dans le rêve, entre ce que l'on voit et ce que l'on a déjà vécu. Et une bonne manière, en fait, de percevoir ce que pensent les gens, ce qui les conduit à faire ce qu'ils font ou à penser ce qu'ils font, eh bien, c'est de prospecter ces moments où eux-mêmes ne sont pas conscients des associations qu'ils sont en train de faire.
Est-ce qu'on peut clairement établir, ou est-ce que vous l'avez clairement établi, Bernard Lahire, que ces problèmes qui nous travaillent la nuit, par exemple, influent sur nos comportements la journée ?
Alors,
est-ce qu'on peut faire ce lien ?
Je pense qu'on peut le faire. Alors, moi, je pense que dans le deuxième volume, il y aura un aspect comme ça. Parce que je vois les gens, pour certains, depuis plus d'un an. Et je vois que... Alors, c'est à la fois le fait de rêver, mais aussi le fait d'en avoir parlé et d'avoir fait le travail d'interprétation autour des rêves. Ça amène les gens à prendre conscience d'un certain nombre de comportements qui, parfois, les font souffrir. Et du coup, ils se retournent, dans la réalité éveillée, sur un certain nombre de personnes.
Et on pourrait prêter aux rêves une utilité sociale.
C'est à la fois... Alors, ça a des effets thérapeutiques, objectivement. Voilà, même si c'est pas mon but. Moi, c'est des enquêtés, c'est pas des patients. Je n'ai aucune...
Vous ne les allongez pas sur le divan.
Non, non. On est en face à face, on enregistre. Ça dure très longtemps. C'est 3-4 heures pour à peine quelques rêves. Et donc, j'ai beaucoup de bandes à décrypter, je peux vous dire. Mais en tout cas...
Et quand vous les choisissez, les personnes qui viennent ?
Alors ça, c'est par réseau d'interconnaissance. Si vous voulez, le but, ce n'est pas de dire à quoi rêvent les Français en général, ce qui est envisageable, par ailleurs. Mais d'arriver à rentrer dans des histoires de rêveurs ou de rêveuses singuliers pour montrer comment ça fonctionne, comment ça se fabrique le rêve.
Et est-ce que justement avec tous ces témoignages, si je puis dire, de rêveurs, vous pouvez peut-être, vous avez l'ambition de décrire quelque chose comme une sociologie de l'époque ou une préoccupation de l'époque, ou ce qui serait dominant, qui n'apparaîtrait pas forcément ?
Je pense qu'il y a des choses de ce type-là qui peuvent se faire. Le livre magnifique de Charlotte Bérat
sur le Troisième Reich.
Voilà, rêver sous le Troisième Reich, avait cette ambition-là, de dire, regardez, le politique rentre dans nos rêves et les gens se sentaient attaqués dans leur intimité, dans leur vie privée, etc.
Est-ce que vous avez cette ambition ?
Alors, en partie, oui. Mais moi, je voudrais plus bêtement, je dirais, aussi que le matériau onirique soit un matériau banal pour les sociologues ou les anthropologues.
Vous le comparez presque à une production littéraire. Il y a cette idée aussi d'imagination que vous ramenez dans le rêve où s'expriment des problématiques existentielles. C'est aussi ça qui vous intéresse, de faire une sorte de récit de cela.
Oui. Oui, mais alors c'est pas un hasard si j'ai travaillé sur la création littéraire avant. Pour moi, c'est à peu près la continuation de ça. Ça peut paraître bizarre. Mais en plus, je suis tombé sur un auteur, Franz Kafka, qui lui-même est considéré comme un écrivain avec une littérature très onirique, qui alors était un spécialiste de la littéralisation de la métaphore, comme on dit, c'est-à-dire qu'il prenait des métaphores au pied de la lettre et il les mettait en scène dans ses livres. Et le terme de littéralisation de la métaphore est chez Freud. Donc ça m'a conduit, en fait, progressivement, essayer de comprendre comment on crée littérairement à partir de problèmes tout à fait existentiels, ce qui était le cas de Kafka, c'est une manière de s'approcher du rêve.
Le sociologue Bernard Lahire est notre invité jusqu'à 13h30 pour l'interprétation sociologique des rêves, votre nouvel ouvrage, tome 1, qui paraît en ce moment à la découverte.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Avant d'être une critique de la psychanalyse, votre ouvrage, Bernard Lahire, est une remise en question de votre discipline, la sociologie, et de ses possibles, de ce champ des possibles qu'elle ouvre. L'historien Hervé Mazurel, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, s'interrogeait à sa manière aussi sur la possibilité de se saisir de la psychanalyse et de ses schémas comme d'un objet historique cette fois-ci. On pourrait peut-être poser la même question et on va vous la poser après concernant la sociologie. Je vous propose de l'écouter.
Sur le moment, ce qui est très important pour Freud, c'est d'installer la psychanalyse comme une science à part entière, et il a besoin du coup de s'appuyer sur des faits stables et universels. Il y a un moment qui aurait pu être à mon avis, est très important dans l'histoire de la psychanalyse, c'est le, et ça se joue avec l'anthropologie. L'anthropologie et la psychanalyse ont raté leur rencontre. Le moment où Malinowski, justement, qui a beaucoup aimé hein, la lecture de Freud, mais propose, dit, le complexe d'Oedipe n'est pas universel. Regardez, dans les îles Tourbillon où je travaille, nous sommes dans une société matrilinéaire. L'hostilité du fils ne va pas vers le père, mais vers l'oncle maternel. Et le désir ne va pas vers la mère, mais vers la sœur. Ça n'est qu'une variante du complexe d'Oedipe, mais ça veut dire que le complexe d'Oedipe tel que vous défendez n'est pas universel. Et là, ça aurait pu, à partir du moment où il y a variation culturelle, il y a variation historique, et Freud envoie, et Ernest Jones et Geza Hoheim répondre assez fermement à Malinowski pour essayer de verrouiller cette histoire d'universalité du complexe d'Oedipe, pour faire en sorte que ça soit fixe et stable, et que du coup le statut de science de la psychanalyse ne soit pas menacé. Je pense que là se joue quelque chose d'assez capital, et puis ensuite la discipline ne va pas réinterroger ses postulats premiers.
Si le rêve fait son entrée dans la grande maison des sciences sociales, écrivez-vous Bernard Lahire, ce n'est pas pour laisser le lieu en l'état, mais pour en déranger les habitudes et en agencer autrement l'espace. En quoi le rêve va-t-il bouleverser nos perceptions? Quel acquis de la sociologie aussi remet-il en question pour vous?
Mais j'ai un peu répondu tout à l'heure sur la question en fait de l'inconscient, de la prise en considération de l'inconscient. Moi, si vous voulez, quand vous lisez, par exemple, des travaux qui peuvent être intéressants de sociologie, par exemple, électorale, tout bêtement. Hein. On se dit, voilà, on sait comment les gens votent ici ou là, etc. Dès que les gens font un peu l'effort d'aller faire un peu l'histoire des gens qui ont cette expression-là à un moment donné, ben, on se rend compte que c'est des choses très intimes qui déterminent les gens dans leurs convictions politiques. C'est des histoires familiales, c'est des choses qui les, c'est des grands-parents qui ont été humiliés, c'est des parents qui ont été humiliés, par exemple, dans plein d'engagements de gauche. C'est pas tellement les gens qui expriment cet engagement à gauche qui ont souffert, mais leurs ancêtres. Et ils sont porteurs de ça. Et je pense que on peut pas faire de la sociologie, je dirais, de surface. Voilà. Donc ce que je reproche souvent à beaucoup de travaux, c'est de rester en surface.
Mais pour vous, cette interprétation sociologique des rêves, c'est aussi un pari fait sur la discipline. Et je peux déplacer un tout petit peu le débat si vous le souhaitez. La semaine dernière, on a rouvert celui qui oppose les déterministes aux individualistes avec le sociologue Marc Joly qui signe pour Bourdieu autour de l'héritage laissé par l'auteur de la reproduction. Votre interprétation sociologique des rêves, Bernard Lahire, elle vient aussi un peu quand même en défense de la sociologie comme science. C'est-à-dire que l'homme n'est jamais tout à fait libre, comme en témoigne son activité psychique. Dire que l'homme est totalement libre, qu'il n'est pas déterminé par aucun mécanisme, ça n'aurait aucun sens, ou ce serait un non-sens scientifique.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, la question se pose même pas. Enfin, on ne demanderait pas à un cosmologue de faire autre chose que nous expliquer pourquoi les planètes sont comme elles sont, etc. C'est notre travail. Donc, si vous voulez, quand des collègues se mettent à dire la liberté, la liberté, la liberté, on leur dit très bien, mais moi, je sais ce que c'est que la liberté politique. C'est autre chose. Mais cette opposition liberté-déterminisme n'a vraiment aucun intérêt, en fait.
C'est un faux débat.
Ça ne nous sert pas. Enfin, c'est la seule chose que je peux répondre. Ça ne nous sert pas dans notre pratique. Vous ne demandez pas à un boulanger de faire autre chose que du pain. Nous, on fait de la science. Ben, quand on fait de la science, on montre qu'il y a des raisons à ce qu'on observe.
Ouais, voilà. Vous faites la science, mais vous voulez remettre l'inconscient. Oui, donc vous voulez remettre des choses qui ne sont pas directement, par définition, accessibles à la rationalité, à la science. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une position non scientifique aussi?
Non, parce que l'inconscient est tout à fait objectivable. C'est ça, tout le travail de Freud, et on peut lui reconnaître cet acquis-là, c'est d'avoir montré qu'on pouvait objectiver cet inconscient, c'est-à-dire le faire apparaître par des méthodes. Alors lui, c'est l'association d'idées, l'association libre d'idées, comme il dit, pour faire advenir un certain nombre d'associations qui ne sont pas contrôlées consciemment par les gens, etc. Aujourd'hui, on a les neurosciences qui nous montrent qu'il y a plein d'inconscients cognitifs, Et moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que l'inconscient, il est aussi socialement structuré. Donc, cet inconscient, c'est pas quelque chose qui est. Si c'était vraiment une boîte noire qu'on ne pouvait pas ouvrir, je ferais pas de la sociologie là-dessus. Voilà. Je ne fais que de la sociologie quand j'ai les moyens d'accéder au monde réel. Or là, à travers l'étude des récits de rêve et en développant des méthodes qui consistent à parler autour de ces récits de rêve pour faire raconter un certain nombre d'histoires, de relations, etc., faire parler de qui est dans le rêve et quelles relations ils ont eues avec eux, etc., c'est de l'entretien à la fois biographique et d'explicitation de tous les éléments du rêve. Bon, quand on fait ça, on accède à quelque chose.
Et le tome 2, où il y aura donc les résultats de ces recherches, ça sera des exemples ou ça sera aussi classé, il y aura une vision...
Mais vous saurez quand il aura été écrit et qu'on invitera à la lire le tome 2.
Non, mais ce sera pas... Pour moi, il n'y a pas une opposition théorie-empirie, en fait. Parce que dans le premier, c'est rempli d'exemples empiriques. Simplement que c'est des exemples qui sont découpés. Alors que moi, ce que je voudrais montrer, c'est sur des cas de rêveurs singuliers, comment tous ces problèmes que j'ai traités se replient dans des cas individuels. Donc on va avoir de la théorie et de la pratique.
Et je vais terminer sur vos mots, Bernard Lahire. Vouloir absolument trouver une fonction au rêve, c'est comme chercher une fonction unique au langage ou à nos représentations mentales. En fait, on rêve parce qu'on a la capacité de symboliser et que tant que l'organisme humain est en vie, tant que son cerveau est en état de fonctionner, le travail de représentation et d'expression ne peut jamais s'arrêter. On pourrait donc dire qu'on rêve parce qu'on vit et qu'on vit une vie d'être pensant, percevant et sentant, qui n'a d'autre fin que la mort. Merci beaucoup Bernard Lahire. L'interprétation sociologique des rêves vient de paraître aux éditions La Découverte. Merci mille fois. Merci. Et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à la programmation préparation Claire Maillot et Chloé Leblon, Clémence Marie et Henri Leblanc, avec Bertie Bourdon et Maxime Morin. Aujourd'hui, Père et le Gras, avec Jacques Hubert à la technique et à la réalisation. Très bel après-midi à tous sur France Culture.